un pas de côté.
Bienvenue dans le magazine d'évasion de découverte, un pas de côté sur l'antenne de Radio Royan Vercors avec d'autres antennes associées dans la Drôme. Un magazine réalisé avec le concours des offices de tourisme Vercors Drôme dont Maëva est salariée au niveau de la communication, chargée de communication. Bonjour Maëva.
Bonjour Patrice.
Et découvrons quelques aspects très intéressants en photo notamment et en exposition pour ce mois de janvier et quelques détails pratiques aussi à retenir pour passer de bons moments sur le Royan Vercors Drôme. On débute peut-être avec quelques expositions. Tout d'abord, une exposition qui nous emmène dans l'office de tourisme de la Chapelle en Vercors, c'est bien cela?
Oui, on va rencontrer Jean-Christian Goujou, géologue, qui va nous parler de son exposition « Les faces cachées du Grenat ». Elle se trouve à l'office de tourisme de la Chapelle en Vercors jusqu'au 5 mars. C'est une exposition de minéraux de Grenat brut cristallisés ou taillés avec des roches polies. Retrouvez tout ça à l'office de tourisme.
Avec un spécialiste des minéraux.
Bonjour Jean-Christian.
Bonjour Sarah.
Nous sommes à l'office des tourismes de la Chapelle en Vercors à l'occasion de la mise en place de votre exposition Grenat et nous vous remercions de nous accueillir pour nous guider un peu.
Je remercie également l'office du tourisme qui met à disposition ces locaux pour que je puisse mettre ces trois vitrines. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ces vitrines? Eh ben, j'ai installé trois tables vitrées de manière à présenter de façon assez condensée les grandes familles de Grenat. C'est une exposition sur ce silicate là et présenter donc ces différentes familles qui varient en fonction de ces compositions chimiques.
Alors on va aller tout doucement parce que peut-être tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est un silicate.
Un silicate, c'est un composé minéral composé de silicium, d'aluminium et puis de tout un tas d'éléments supplémentaires comme le fer, le manganèse, le calcium, le chrome, le vanadium, le titane, enfin voilà. Et ben en fonction des combinaisons, la présence et l'absence de certains éléments, certains grenats sont franchement rouges, on le connaît, c'est sa couleur, on va dire la prépondérante, la plus commune. Mais ce que je voulais également présenter, c'était montrer l'existence de grenats orange. Dès qu'il y a un élément comme le manganèse, par exemple, ça l'éteint plutôt en orange. Quand il y a des éléments comme le vanadium, le titane le teinte en noir. Le chrome le teinte en vert. Et ces éléments-là, ces couleurs-là, évidemment, sont dépendantes de la roche dans laquelle ils cristallisent. C'était ça aussi que je voulais expliquer à travers cette exposition, c'est de montrer que les couleurs changent en fonction de l'endroit où cristallise le grenat.
Et on peut s'intéresser à ce processus de cristallisation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une roche cristallise?
Alors, deux sortes de cristallisation, c'est ce que je voulais mettre en évidence. Ça sera un peu dense dans cette exposition pour aborder ce sujet, mais il y aura des petits panneaux explicatifs pour expliquer que le grenat, on peut le trouver dans des roches magmatiques, c'est-à-dire issues de la cristallisation d'un magma, donc quelque chose qui est liquide et qui finit par se figer. Ça, c'est une cristallisation de roches magmatiques. Ces roches-là, elles peuvent arriver en surface comme les roches volcaniques ou cristalliser en profondeur comme les granites, comme les roches plutoniques. Ou alors, il y a des cristallisations à l'état solide, et ça, c'est ce qu'on appelle les roches métamorphiques, où toutes les transformations ont lieu à l'état solide. C'est juste des migrations d'éléments dans les roches et le rôle très important de la déformation aussi dans ces roches qui fait que les transformations minérales se font à l'état solide.
La cristallisation donne des formes très très différentes à toutes ces roches. Comment pourquoi la cristallisation, Elle s'est traduite en des formes aussi différentes.
La principale raison, c'est les contraintes qui sont amenées à subir les grenats, parce que dans un magma où les premiers cristaux qui se forment sont les grenats, il va pouvoir prendre sa forme naturelle dans sa meilleure expression, puisque ça va être le premier à cristalliser dans un jus liquide. Il prend toute la place, il prend la place qu'il veut, dans la mesure de la composition chimique, mais en tout cas, il n'a pas de contraintes. Et ça sera l'objet d'une des vitrines, c'est de montrer leur forme naturelle. Il y a deux formes.
Vous avez aussi mis des petits manufacts en carton pour faciliter la compréhension de la forme de la pierre au public.
Absolument. J'ai présenté donc les deux formes principales, matérialisées par un petit modèle en papier carton rouge et puis un autre en jaune.
On peut les dire, ces noms difficiles de polyèdres qui vont nous rappeler les cours de géométrie de l'école.
Oui, on peut, bien sûr, on peut dire. La forme de base est la plus commune pour le grenat. C'est la forme avec que des faces losangiques, ce qu'on appelle le rhombododécaèdre, donc 12 faces losangiques, idéalement de surface égale. Enfin, on verra, on peut voir qu'elles peuvent être de dimensions différentes, mais c'est surtout la symétrie qui est très importante et qui est respectée, puisque que ce soit l'une forme ou l'autre, ce minéral, le grenat, appartient au système cubique. Il cristallise dans le système cubique. Et puis alors l'autre forme, la forme B, qu'on appelle l'icositétraèdre. Alors là, c'est 24 petites faces, toutes identiques. Et ce qui est très intéressant sur l'exposition, c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est montrer que dans la plupart des cas, il y a aussi les formes combinées de ces deux formes. On trouve une forme dominante de rhombododécaèdre avec des troncatures aux arêtes qui font apparaître...
Avec des...
Ça s'appelle des troncatures, des petits biseaux sur chaque arête qui donnent vraiment l'impression que la roche, que le minéral a été faceté. Ça a rajouté des facettes supplémentaires. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des petits dessins, parce que c'est en même temps très explicatif, à côté des échantillons qui sont présentés, et de montrer qu'un grenat a une dominante d'une forme, et par l'apparition de ces petites facettes supplémentaires, migre vers la forme numéro 2. Et inversement, on a l'inverse, on a l'icositétraèdre, qui peut aussi montrer des formes de la face, comment dire, du modèle rhombododécaèdre. Et ça fait voilà ce genre de petits modèles là, avec des faces toujours pareilles, supplémentaires, qui donnent vraiment l'impression que la pierre a été facetée.
Et donc c'est un processus très complexe qui nous apparaît très complexe. Mais combien de temps ça prend pour former une pierre comme celle-là? Par exemple, je vois les grenats alumineux de Fort Wrangell en Alaska, qui est assez impressionnante pour sa forme et donc pour les très grand nombre de facettes. Combien de temps ça prend pour former cette pierre?
Mais ça, c'est toujours la grande question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Le temps de cristallisation et de transformation d'un silicate en un autre, ce qui est sûr, c'est que c'était en dizaines voire centaines de milliers d'années. Là, on a des roches qui peuvent être datées à plusieurs centaines de millions d'années, et elles ont elles-mêmes subi des transformations au cours de leur histoire. Donc, tous ces événements, en aucun cas, il y a des cristallisations spontanées. L'échelle de temps nous dépasse. Pour certaines roches, par exemple celle de la vitrine numéro 1, par exemple, où je présente les familles de grenats, ces deux roches, par exemple, les roches qui présentent les grenats les plus riches en magnésium, sont présentées comme les roches issues de cristallisation à très très forte profondeur, qui sont trouvées dans les Alpes et dans le massif armoricain, des roches qui ont cristallisé à plus de 50 km de profondeur à un moment donné dans l'histoire de la chaîne de montagne, qu'elle soit armoricaine ou alpine. Ce sont des roches qui ont été portées à un moment donné à une très très grande profondeur. Des cristaux de grenat peuvent se former à ce moment-là à très grande profondeur. le fait d'être dans certaines roches et dans ces conditions, ils sont très riches en magnésium. Et puis ces roches remontent en surface. Une fois que les contraintes maximales sont passées dans l'histoire de ces formations de chaînes de montagnes, à un moment donné, il y a une exhumation de ces roches. Et l'histoire...
Exhumation naturelle, c'est-à-dire que naturellement, elles remontent en surface.
Tout à fait. Y compris par les phénomènes d'érosion aussi, qui décapent les reliefs créés à ce moment-là. Et l'histoire du Grenat est donc pas finie, puisque de très grande profondeur, il remonte, et à son tour, lui, il subit des transformations qui l'amènent à se transformer, voire à se déstabiliser. Il peut aussi finir par disparaître. On a une roche sous les yeux, là, par exemple, entourée d'une petite auréole noire. Chaque Grenat a subi un phénomène de déstabilisation. Ils sont encore... présents dans la roche, mais ils ont commencé à se déstabiliser. C'est cette fameuse petite couronne noire qui les entoure, comme si on était venu les entourer avec un feutre noir. Mais c'est une réaction de déstabilisation.
Donc, une roche stable, c'est une roche qui n'échange pas de forme.
On va parler de métastabilité, parce que beaucoup de ces roches-là, à notre échelle de temps, nous, il ne se passera plus rien. Elles sont dans ces vitrines, tout le temps de l'exposition, et dans 50 ans, elles seront toujours là.
Donc, pour simplifier, on peut dire qu'elles sont stables à nos yeux, parce que nous, on est une petite chose dans les temps face à la vie très longue de ces roches.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Sous mes yeux, il y a plein de noms de lieux géographiques différents et très loin entre eux. Je vois les États-Unis, le Nigeria, le Brésil, le Pérou. La Russie, comment vous avez collecté toutes ces roches d'origine très différente?
Alors pour une partie, il y a une collecte personnelle, il y a aussi des échanges, des achats, et là c'est le résultat d'une collection depuis plus de 45 ans, en fait. Je m'intéresse à la minéralogie, c'est ce qui m'a amené à la géologie. Et puis,
parce qu'on va donc un peu parler de vous, peut-être. Vous êtes géologue.
Absolument, je suis géologue. Alors géologue, il faudrait préciser, parce que alors il y a toute une panoplie de diversité dans la géologie. Mon domaine de spécialité, c'est plutôt les chaînes de montagne. Ce sont les chaînes de montagne. Donc je suis géologue. Je fais géologie structurale. Pétrologie, c'est-à-dire l'étude des minéraux dans les roches, et qu'elles soient magmatiques ou métamorphiques.
Et ce n'est pas que à travers votre passion de la géologie que vous traitez les pierres, parce que vous êtes aussi passionné de bijoux en pierre.
Ah oui, depuis quelques années, j'ai basculé vers cette activité de transformation de roches et minéraux, pas seulement minéraux, mais également roches. Justement aussi pour communiquer sur les sciences de la Terre. Je trouve que c'est un bon moyen de les exposer, de les polir, et pourquoi pas pour les plus jolies, de les monter en bijoux.
Et donc, vous avez votre boutique à la Chapelle en Vercors. Est-ce que les gens ici arrivent à se passionner à cette question des pierres? Est-ce qu'ils sont curieux, curieuses?
Bien sûr, oui, je rencontre plusieurs, et puis de tout âge, c'est ça qui est amusant. Et c'est vrai que l'activité de taille de pierre et de création de bijoux m'a montré que c'était un bon moyen pour communiquer sur les sciences de la Terre. Parce que j'ai vraiment des tout petits qui viennent et qui posent des questions et qui viennent tripoter les cailloux dans l'atelier. Et puis des personnes de tout âge qui présentent... Moi, je tiens vraiment à présenter aussi à chaque fois que je peux les roches brutes et les roches transformées, les minéraux bruts et les minéraux taillés. Toutes ces pierres, elles proviennent de multiples sites que je ne connais pas tous, hein, d'ailleurs. Il y en a que je connais, il y en a qui sont, je dirais presque inaccessibles. Hein. Je parle pas forcément parce qu'ils sont en Russie, mais parce que ce sont des, dans certains, c'est des sites miniers. Il y a des découvertes qui ont été faites dans le cadre minier. Il y en a qui ont été faites dans le cadre simplement de sites en montagne, des éboulis, des galets de rivière, ça peut être dans des champs, ça peut être, enfin, tout est possible.
Et comment on fait pour sensibiliser le public à la question de la traçabilité des pierres et de l'exigence qu'il faut avoir pour ne pas être prédateur dans ces domaines-là?
Alors là, il y a plusieurs points, il y a plusieurs questions. À l'origine, cette exposition-là, je l'avais montée dans un département du sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, justement pour attirer l'attention sur ce problème de traçabilité des pierres. C'est un département dans lequel il y a une activité de bijouterie autour du grenat, et selon une tradition catalane. Et là, il y a une communication à outrance autour du grenat. Et je voulais montrer l'origine et la qualité des grenats de ce département par rapport à ce qui était travaillé. Et là, on se rend compte tout de suite qu'en fait, il y a un abus de langage dans ce département. Il y a tout un groupe d'artisans bijoutiers qui ont pignon sur rue, qui disent travailler le grenat catalan, alors que le grenat ne vient pas de la région. Et ça fait même belle lurette qui vient plus de la région. Il arrive importé de l'étranger, taillé, et il n'est plus que monté dans des ateliers.
Donc ça fait un peu comme les petits bibelots gondoles qu'on trouve à Venise et qui sont produits en Chine.
Oui, c'est absolument ça, tout à fait. Et venant des Pyrénées-Orientales à l'origine, j'ai grandi là-bas, ça finissait par un peu m'agacer, cette tradition, parce qu'on finit par croire, enfin, un Catalan finit par croire que les plus beaux grenats du monde sont dans ces montagnes, et qu'il connaît pas le reste des grenats. Donc j'ai voulu replacer un petit peu le grenat au centre, et j'avais laissé cette exposition pendant plusieurs années. Moi, je remets en cause l'idée qu'il ait pu être extrait même du département. Il n'y en a jamais eu de traces dans les archives. Par contre, il y a effectivement beaucoup de gisements, mais de grenats de qualité minéralogique, de qualité géologique. Le grenat est un minéral commun.
Donc, pas les minérales qu'on veut pour faire un bijou.
Tout à fait. Il ne faut pas confondre grenat et grenat. Le grenat est un minéral commun. On en trouve vraiment de façon abondante. Mais il peut être rougeâtre, avec tout un tas d'impuretés, et absolument sans intérêt pour la joaillerie. Absolument sans intérêt. Et il ne faut pas confondre avec un grenat de qualité joaillerie qui est trouvé sur certains gisements à Madagascar, République tchèque, massif de Bohême, par exemple, est historiquement connu. Alors certes, de très très bonne qualité, dans certains gisements peuvent finir par être épuisés, bien sûr. Mais sinon, le grenat lui-même, il est tellement abondant. Il a une composition tellement banale. Il ne faut pas oublier, hein, c'est un silicate, silicium, aluminium, fer, magnésium. C'est des éléments qui sont très abondants dans la croûte. Et dès qu'on est dans un massif ancien, comme le massif central, le massif armoricain, les Vosges, les Alpes, dès qu'on est dans des roches silico-alumineuses et que la roche a subi un certain métamorphisme de moyenne température, moyenne pression.
Quelle est la température moyenne du métamorphose? Ça peut nous intéresser.
Je dirais le grenat, c'est ce que j'ai mis sur un petit panneau explicatif. Il est stable, moyennant des variations de composition. Il est stable dans quasiment dans tout le domaine, dans tout le champ pression-température qu'on connaît dans la croûte terrestre. Donc, à partir de là, on le trouve dans toutes les roches. Et comme il est très résistant à l'érosion, il a une dureté de 7 et au-delà de 7, il résiste et on le retrouve jusque dans les sables.
Comment on mesure? Parce que ça vous semble très logique, mais peut-être, et nous, on ne sait pas comment on mesure la dureté des pierres. Là, vous venez parler d'une dureté 7, 8?
Oui. Alors, on utilise une échelle de 1 à 10, et c'est une échelle relative. Donc, on va dire que le 10 étant le plus dur, c'est le diamant. Le 1 le plus tendre. Le 10 raye les minéraux de dureté 9, qui raye les minéraux de dureté 8, et ainsi de suite. Et le 1,
donc on peut dire que les grenats est une roche assez dure.
Le grenat est une roche dure. Le grenat est une roche, comme toutes les pierres utilisées en joaillerie, c'est à chaque fois des minéraux, la plupart du temps, qui sont au-delà de 6. C'est 7, 8, 9 et 10 le diamant. Mais le saphir, rubis, c'est 9. Vous voyez. Donc, et le grenat, forcément, on disait tout à l'heure, on le trouve dans tout un éventail très large de pressions de température dans les roches métamorphiques, résistant à l'érosion, résistant à l'abrasion. On va le retrouver dans les sables lourds, des cours d'eau et les plages.
On peut regarder ces fragments qui sont dans une petite bouteille. J'ai dit sable lourd à grenat.
Oui, absolument. C'est un placer littoral, ça s'appelle comme ça. Une zone où se sont concentrés naturellement, où se concentrent naturellement après chaque grande marée, parce que là, ça se passe sur une plage dans le sud du massif armoricain. À chaque grande marée, se reforme ce gisement de sable lourd. Alors pas seulement de grenat, mais tous les minéraux lourds s'y concentrent, des oxydes de fer, des amphiboles, enfin tout un tas de silicates denses. Qui ont la densité comme le grenat. Globalement, il y a une dominante de silicate rouge, effectivement, de grenat dans ce sable.
Merci. Donc, vous nous avez donné beaucoup, beaucoup d'informations et vous nous avez montré votre souci de la pédagogie dans la mise en place de cette exposition. S'il y avait une chose plus importante que d'autres qu'il faudrait retenir en sortant de cette expo, quelle serait la chose qui vous tient le plus à cœur de transmettre?
La première, c'est de retenir que c'est une grande famille, le grenat, et qu'on le trouve de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs. On le trouve dans toutes les roches, absolument toutes les roches. Et le fait de pouvoir changer de composition chimique, de pouvoir avoir des éléments qui se substituent les uns aux autres, peut expliquer cette grande adaptabilité à son environnement, parce qu'une roche ce qu'il faut absolument, c'est du silicium, de l'aluminium, mais à partir du moment où vous avez du calcium, du chrome, du fer, du magnésium, du manganèse, il peut apparaître, et ensuite il y a tout un tas d'éléments qui peuvent se substituer les uns aux autres, et il peut aussi varier au sein même d'un cristal, de composition. Il peut naître au cœur avec une certaine composition et finir sa cristallisation avec une autre composition. Donc voilà, je voudrais qu'on retienne ça, une grande famille. Et puis aussi, la vitrine principale, c'est celle où je montre les formes minérales, les formes cristallines naturelles. Il appartient au système cubique. Il ne fait jamais de cube. Il fait des rhombos dodécaèdres et des icosites tétraèdres, des formes à multiples facettes.
Merci. Donc, il nous reste que à inviter les personnes. Donc, il est possible de voir cette expo comment?
Eh bien, à l'Office du tourisme, en fonction de son horaire d'ouverture. Donc, les horaires d'ouverture, vous pouvez les avoir sur le site internet de l'Office du tourisme. Et puis, à partir des vacances qui approchent, ça sera le matin, tous les jours, sauf le dimanche.
Et jusqu'à quelle date?
Pour l'instant, la date est fixée à fin janvier 2024. Et puis on verra en fonction de l'affluence comment les choses se passent, comment l'exposition est accueillie par le public.
Merci beaucoup Jean-Christian.
Merci Sarah.
C'était Jean-Christian Goujou pour l'exposition Les faces cachées du grenat, que vous pouvez retrouver à l'Office de tourisme de la Chapelle en Vercors jusqu'au 5 mars.
Deuxième proposition, tout en exposition avec un photographe qui vient d'obtenir un prix d'excellence, on peut le dire. Il s'appelle Lucas Melkarn, très passionné d'animaux. Et depuis qu'il est enfant, Lucas arpente le massif du Vercors à la découverte des habitants et de ses forêts ainsi que de ses différentes crêtes. Et en 2023, ce photographe en herbe publie le livre Vercors rencontre au fil des saisons et remporte le prestigieux prix du Rising Star au concours du Wildlife Photographer of the Year. Pardonnez-moi pour l'accent, mais en tout cas, le titre est là et il est possible de voir 5 de ses photos actuellement à la librairie Les Espelines à Vassieux-en-Vercors, où notamment, eh bien, il peut faire part de ses différentes passions et des clichés tout à fait sublimes. Lucas Melkarn, avec le livre qui est présenté aussi dans cette même structure de café-librairie à Vassieux-en-Vercors. On le retrouve au micro de Sarah.
Bonjour Lucas Melkarn.
Bonjour.
Je vous remercie de nous accueillir ici à la librairie Les Espelines à l'occasion de l'installation de votre exposition qui ouvrira demain et qui vous permettra de mettre en lumière vos photos sur les Vercors et qui sont aussi dans votre livre récemment édité Vercors.
C'est ça, Vercors rencontre au fil des saisons.
Ouais. Vous êtes photographe naturaliste, mais la première question, est-ce que vous êtes d'abord photographe ou d'abord naturaliste ?
Alors, d'abord naturaliste, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans, et puis après photographe, quand j'ai commencé quand j'avais 12 ans à peu près.
Et aujourd'hui, les deux aspects vont ensemble, il n'y en a pas un qui est prépondérant sur l'autre.
Si, je préfère quand même toujours sortir avec mes jumelles qu'avec mon appareil photo. C'est moins lourd, mais surtout ce que j'aime le plus, c'est observer la nature. La photo, ça vient après.
Les fruits de ces observations, il est en partie devant nous. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on voit là, dans la librairie, déjà exposé dans des beaux cadres assez grands?
Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a cinq tirages donc de tailles différentes. Il y a une étagne, la toute première photo là, celle qui fait du coup la couverture du livre aussi, donc la femelle d'un bouquetin. Après il y a deux biches suspendues dans la neige. Il y a un joli troupeau de bouquetins dans le brouillard. Une femelle lagopède toute seule au milieu de la neige, au milieu de rien. Et puis après une petite chouette chevêchette qui est en train de bâiller.
Alors pour la chouette, on ne sait pas. Pour les autres, on se rend bien compte que c'est des photos d'hiver. Et l'hiver occupe une section de votre livre.
Ouais, bah du coup, le livre s'est fait du coup sur les 4 saisons. Donc on commence du coup avec l'hiver. Donc c'est souvent des photos qui sont très très blanches. Et moi, c'est aussi une saison que j'aime beaucoup pour photographier, pour me balader ou pour skier, parce que j'aime bien la rudesse de l'hiver, j'aime bien les ambiances que l'hiver dégage. Donc c'est vrai qu'en photo, j'essaye en tout cas de le retranscrire. Et on arrive un petit peu à le percevoir avec la première photo là, l'étagne du coup qui est toute givrée, elle est complètement ensevelie de glace. Et donc j'aime bien un petit peu essayer de retranscrire cette atmosphère-là dans mes images.
On voit l'animal enseveli dans la glace, on peut s'imaginer les photographes ensevelis dans la glace de l'autre côté.
Exactement, ouais. Moi je suis dans le même état qu'elle, hein. Je suis complètement givré, mon appareil photo aussi il est givré. Des fois il faut que je souffle dessus pour essayer de le dégivrer pour que je puisse accéder au bouton, mais je suis dans le même état que eux, ouais.
Et c'est votre démarche un peu de vous mettre dans une situation comparable à celle des animaux que vous espérez rencontrer?
Moi, je viens juste essayer de témoigner en fait des endroits, de l'environnement dans lesquels ces animaux vivent. Et puis c'est vrai que j'aime bien essayer de le montrer aussi les conditions les plus extrêmes dans lesquelles ces animaux vivent. Parce que nous, on y va une journée, deux journées maximum, et puis après on rentre chez soi, on dort dans un lit au chaud, alors qu'eux, ils sont là-haut toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc des fois les conditions sont pas toujours faciles.
Est-ce que pour parler encore de conditions pas faciles, est-ce qu'on peut essayer de décrire cette photo qui est dans les brouillards?
J'étais parti du coup pour essayer de voir les bouquetins ce jour-là, il y avait plein d'indices qui me prouvaient, enfin qui me démontraient que les bouquetins étaient pas très loin. Et en fait, avec ce brouillard, on voyait pas à 15-20 mètres. Et donc, je cherchais un petit peu une aiguille dans une botte de foin, parce que c'était impossible à trouver avec ce brouillard. Et puis d'un coup, en fait, à un moment donné, il y a un bruit assez sourd, assez puissant, qui était en fait les cornes des bouquetins qui s'entrechoquaient, qui se battaient. Et donc c'est comme ça que j'ai pu les localiser, savoir où est-ce qu'ils étaient. Et en fait, je suis descendu de 200 mètres de dénivelé plus bas. J'étais passé à côté sans les voir en fait dans la montée, et ils étaient là au milieu de ces énormes blocs de roches dans ce chaos rocheux, et ils étaient tous regroupés. Donc c'était pas forcément facile d'essayer d'en mettre un forcément en évidence ou plusieurs. Et puis au moment donné, ils se sont tous mis un petit peu là en alignés presque, et donc j'ai fait cette image. Et puis c'était pas forcément facile sur le coup de se dire si l'image était bonne. Et puis en fait, quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu l'image, je l'ai trouvée assez elle caractérisait bien le moment vécu, en tout cas.
Là, vous venez de dire une chose qui nous frappe, nous qui sommes pas photographes. Je savais pas si l'image était bonne. Qu'est-ce que c'est une bonne image?
Une bonne image, déjà faut que ce soit une image qui me plaise moi par rapport au moment vécu. Ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir face à moi du coup des animaux qui sont paisibles. J'aime pas un animal qui prend la fuite ou un animal qui est qui vive sur l'alerte. Pour moi, c'est pas une image qui va m'intéresser. Et puis après, une image réussie, y a pas vraiment de règles en photo. Faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage, qui soit marquant, qui ait une émotion qui soit véhiculée. Et puis là, dans toutes ces images, c'est des images que j'ai sélectionnées, que j'ai imprimées, donc forcément c'est des images qui me plaisent. Mais c'est aussi après un style, quelque chose qui va un petit peu nous définir. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas dans ces tirages. Toutes les images, elles sont forcément retravaillées un minimum, mais moi j'essaie vraiment après sur le terrain d'être le plus précis possible, d'aller dans le moins de détails, vraiment finir mon image avec mon appareil photo, et donc elles sont retravaillées, mais vraiment un minimum. C'est parfois un petit peu de recadrage, un tout petit peu de contraste, mais sinon mes yeux ont vu ça. C'est ce que j'essaye de respecter, c'est être le plus fidèle possible à la prise de vue, à ce que moi j'ai vu dans mes jumelles.
La chouette ressort de l'obscurité.
C'est ça. Alors on a l'impression que ça peut être fait en pleine nuit, mais en fait c'est quasiment en pleine journée, en plein après-midi. Et là, elle était du coup dans un faisceau de lumière, et puis tout le reste était vraiment dans l'ombre. Et donc après, en sous-exposant avec mon appareil photo, donc j'ai vraiment ce rendu-là dès la prise de vue. Là, il n'y a pas de retouche ou d'assombrissement après, derrière, avec l'image.
Et vous ne donnez pas des repères très précis, sauf pour quelques photos, pour comprendre où on est. Même quand on connaît un peu les Vercors, on ne sait pas très exactement où nous sommes.
Après j'essaye de, dans mes images, le plus possible, pas toujours, des fois il y a des images qui vont être un petit peu plus proches de l'animal, mais j'essaie de toujours incruster en fait un sujet, une espèce dans un environnement. En fait, sans un environnement adéquat, une espèce, l'espèce, elle peut pas y vivre, elle peut pas rester là. Donc j'essaie de lier les deux, de montrer en fait la liaison qu'il y a entre une espèce et son environnement.
Et dans votre livre, ainsi que dans l'expo qu'on a sous nos yeux, il n'y a pas de lieu qui est indiqué, il n'y a pas de date des prises de la photo. Est-ce que c'est une volonté de le rendre, on va dire, un peu intemporel, un peu abstrait?
Ouais, exactement. Alors je voulais à la fois pas mettre les lieux pour la tranquillité des espèces, pour pas que derrière, après, il y ait aussi plein de personnes qui y aillent.
Donc vous reconnaissez que nous, l'espèce humaine, on est un peu destructrice par rapport... à l'égard de ces sujets-là.
Ouais, l'espèce humaine, elle est un petit peu envahissante parfois. Ouais, mais moi le premier, hein, parce que moi aussi, quand je vais dehors, des fois les animaux, ils apprécient pas forcément ma présence, bien sûr. Mais j'ai pas envie que ce soit encore, qu'il y ait derrière ça encore un petit peu plus de dérangement par ma faute surtout. Mais voilà, après toutes les images, elles sont faites sur le Vercors. De toute façon, tout ce qui est bouquetin, lagopède, on sait que ça va être sur les crêtes, sur des sommets, donc. Ça en dit déjà long.
Vous nous donnez comme repère les saisons principalement.
Voilà, exactement, les saisons, après les ambiances, le blanc de la neige, l'obscurité de la nuit, tout ça, ouais.
Ce travail un peu poétique d'abstraction que vous avez fait, est-ce qu'il s'articule par ailleurs au constat des changements qui sont ceux du paysage et du danger qui pèsent sur ces espèces?
Bah alors les saisons, ça se fait pas sur des dates précises, forcément c'est cyclique, donc à la fin, après on retourne, à la fin de l'automne, on est censé revenir sur l'hiver, et donc j'ai essayé de mettre un petit peu, de montrer un petit peu la difficulté du coup que certaines espèces ont sur la fin de l'automne, au début de l'hiver, donc ça va être ce lièvre variable, le lagopède alpin, mais il y a aussi du coup l'hermine, qui eux vont devenir du coup blancs, par rapport à des hormones qui vont faire que du coup leur plumage, leur pelage vont devenir blanc. Mais derrière, on n'a pas forcément la neige qui arrive à temps. Et donc j'ai essayé un petit peu là sur ces quatre dernières pages là de montrer la difficulté que ces espèces ont à s'adapter face à ce changement-là. Donc ça va être un lagopède blanc dans des roches un peu sombres. Là, juste avant, ça va être même beaucoup de contraste, donc un lièvre blanc sur un fond complètement noir. Donc j'ai essayé un petit peu de montrer sur la fin du livre donc ces enjeux que ces espèces ont dans le Vercors.
Constat qui ne pourrait pas être plus actuel aujourd'hui, 18 décembre, oui. Belle journée ensoleillée sans neige.
Exactement, ouais, avec 10 degrés.
Et donc, pour passer à un autre sujet, je voulais parler avec vous du prix que vous avez reçu pour votre travail. Qu'est-ce que ça représente un prix comme celui que vous avez eu et que je vous laisse dire?
C'est le prix de l'étoile montante décerné du coup par le Muséum d'Histoire Naturelle à Londres. Le concours c'est du coup le Wildlife Photographer of the Year, photographe naturaliste de l'année.
Et qu'est-ce que un prix comme cela, peut-être nous on ne se rend pas compte, veut dire dans les parcours d'un photographe?
C'est le plus gros concours qu'on a du coup dans le monde entier. Enfin, pour la photographie de nature. Et donc, c'est vrai que recevoir un prix à ce concours-là, parce que du coup, il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai gagné un prix d'une des catégories. C'est une véritable consécration. C'est un peu un rêve, pour tous les photographes.
Quels sont les critères qui sont pris en compte?
Alors, faut qu'il y ait des images qui se détachent des autres. Moi, je pourrais pas vraiment y répondre parce que je suis pas jury, je suis juste participant. Mais en tout cas, on essaye de montrer, en l'occurrence, moi, pour mon prix, c'est, du coup un portfolio de 6 images et donc on est récompensé sur l'originalité, sur les techniques de prise de vue mais aussi du coup sur le fait que nos photos doivent être le moins retouchées possible. On doit vraiment être au plus proche de la réalité, donc on est obligé d'envoyer du coup les formats bruts de nos images. Et du coup, c'est le jury qui décide si on a été du coup fidèle ou non sur la retouche de nos images.
L'authenticité est un enjeu dans la photographie naturaliste, ce qui n'est pas le cas, par exemple, par d'autres typologies de photographie.
Ouais, exactement. Alors après, il y a vraiment des critères un peu précis. Par exemple, sur le recadrage, on ne doit pas dépasser 20 ou 30%, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des données techniques précises. On peut retravailler un petit peu le contraste, un petit peu l'exposition, mais pas plus. On doit vraiment être le plus fidèle possible.
Et donc, c'est un prix Rising Star que vous avez reçu. Donc, c'est un prix qui consacre des étoiles montantes. On peut s'imaginer que c'est un parcours récent, mais en fait, non, votre travail de photographie, il a commencé il y a quelques années.
Ouais, c'est un prix qui est réservé pour les 18-26 ans, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'ai commencé la photo, du coup, vers mes 12 ans, ouais.
Et dans les livres aussi, il y a des photos qui remontent à quelques années.
La photo la plus ancienne, elle a 10 ans, ouais, dans le livre. Donc ça fait 10 ans d'images. Après, la plupart des images ont été faites sur les 5 dernières années à peu près. Mais voilà, l'image la plus ancienne a 10 ans, ouais.
Comment vous avez choisi les photos à mettre dans votre livre? J'imagine que vous en avez beaucoup plus.
Ouais, j'en ai beaucoup plus, ouais. Alors après, du coup, avec Rachel, donc la graphiste, on a vraiment essayé de essayer de raconter une histoire avec toutes ces photos. Donc on est parti du coup de l'hiver au printemps jusqu'à l'automne. Et donc on a essayé du coup de raconter une histoire avec ces images et avec surtout la colorimétrie de ces photos. Donc on passe du blanc au vert en passant un petit peu par le sombre, après l'orange, pour terminer sur le noir. Donc il y a des images malheureusement qui étaient très belles, enfin des images que j'aime beaucoup, mais qui n'avaient pas leur place, tout simplement par souci du coup de colorimétrie ou d'espèce.
Et donc on a beaucoup, beaucoup parlé d'images, il y a aussi des textes dans ces livres. Est-ce que c'était facile de trouver les mots justes pour accompagner ces images ?
Non, du tout, non. Ben moi, je me définis pas vraiment comme photographe. Donc déjà, faire les photos, c'est pas forcément facile. Mais alors les textes, c'était encore autre chose. Mais je voulais qu'il y ait du texte. Je voulais pas que ce soit vraiment un livre qui présente uniquement des images. Donc je me suis forcé un peu à écrire sur certaines images, oui.
Et sur la manière dont vous avez attendu, c'est beaucoup question d'attente dans ces textes et des patiences, notamment par exemple, vous décrivez un passage d'un loup après lequel vous avez attendu 2 jours qu'il repasse à nouveau.
Bah c'est beaucoup beaucoup d'affût en tout cas pour faire des images en France, enfin ici sur le Vercors notamment, on a beaucoup d'espèces en fait qui avec la pression de l'homme, la pression de la chasse, du coup sont très très farouches. Ils ont une énorme crainte de l'homme et donc on est obligé, pour essayer de contrer un petit peu leur vigilance, ben de les prendre par surprise. Et donc les prendre par surprise, c'est faire de l'affût, c'est attendre qu'un animal passe, espérer qu'il passe au bon endroit, au bon moment, avec la bonne lumière, et puis pour faire une image.
Quel est l'autre projet avez-vous ?
Bah, toujours continuer à faire des photos sur le Vercors. J'ai pas d'autres projets de livres ou autres. Déjà celui-là, il me prend pas mal de temps avec la distribution, la vente, etc. Donc déjà faire en sorte que le livre se vende bien, et puis après essayer de retrouver un petit peu de temps pour moi pour faire des photos.
Et c'est toujours le Vercors qui vous inspire.
Et c'est toujours le Vercors qui m'inspire, qui m'anime et que j'aime, ouais. J'ai pas fait ce livre, c'est pas une page qui se ferme, enfin un livre qui se ferme ou autre, c'est juste le début, même j'espère d'un travail encore plus long sur la région, ouais.
Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Ben si vous voulez du coup voir l'exposition ou me rencontrer aux côtés du coup de Daniel Pénac qui est l'auteur de la préface du livre, on peut se retrouver du coup le mardi 2 janvier à partir de 18h à la librairie des Espelines à Vassy-en-Vercors.
Merci.
Merci à vous.
C'était Lucas Melkarne au micro de Sarah. Et je vous précise que cette exposition dans le café librairie Les Espelines est visible encore jusqu'au 31 janvier. Poursuivons ce magazine et un petit mot d'information pratique autour de la neige et des skieurs qui pourront justement rejoindre les stations de la Drôme, même depuis Valence, c'est bien cela Maëva hein ?
Depuis Valence, oui, une navette des neiges est prévue par les stations de la Drôme pour pouvoir accueillir les skieurs qui n'ont soit pas le permis ou pas de possibilité d'avoir la voiture. Donc au départ de Valence à 8h, qui passe par la gare TGV, Bourg de Péage, Saint-Laurent-en-Royans et s'arrête jusqu'à Fondurle pour un retour vers 17h pour rentrer sur Valence. Et de même sur Die pour accéder à la station de Col de Rousset, donc à partir de 9h45, et vous pouvez repartir de la station à 16h30. Mais n'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le site des stations de la Drôme et pour pouvoir réserver les navettes.
Et en vous précisant aussi, c'est peut-être bon de le dire, que les stations sont équipées de webcams, ce qui permet de voir aussi la météo de son fauteuil, les conditions qu'il fait avant de rejoindre les stations. Ainsi, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la station du Col du Rousset, d'autres également, comme Fondurle.
La météo, mais aussi les ouvertures de pistes.
Et les ouvertures de pistes.
Qui sont faites par les dameurs, donc eux ont les informations en direct et peuvent vraiment vous donner des informations réelles.
Merci beaucoup Maëva. On referme ce magazine un pas de côté pour ce mois de janvier 2024. À bientôt en février.
Merci Patrice, à bientôt. Oui.